Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirica.
À la une de l'actualité ce midi, le couple présidentiel a reçu hier dimanche soir sa première dose du vaccin contre le coronavirus. C'était à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa. À l'occasion, Félix Tshisekedi Tshilombo a appelé ses compatriotes à lui emboîter le pas. 216 nouveaux cas de violences sexuelles basées sur le genre enregistrés au premier semestre de cette année à Goma, selon l'unité de protection de l'enfant et la prévention contre ces pratiques. Du coup, la police onusienne et la PNC invitent la population à mettre fin à ces pratiques dont les conséquences sont parfois néfastes. Notre invité, c'est le président de la Confédération des négociants et transporteurs miniers du Grand Kivu, Israël David Kikuni, parle de la collaboration entre les trois provinces sur les transits de minerais par voie aérienne après l'accord conclu entre les gouverneurs du Maniema, du Nord et du Sud Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Le couple présidentiel a reçu hier dimanche soir sa première dose du vaccin contre le coronavirus à la clinique de la Cité de l'Union africaine ici à Kinshasa. Après l'évaluation des signes vitaux et les formalités administratives d'usage, Félix Tshisekedi Tshilombo et son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi ont été vaccinés à l'épaule gauche en présence du ministre de la Santé publique. Juste après, le chef de l'État s'est dit soulagé d'avoir pris sa première dose du vaccin. Il a appelé ses compatriotes à lui emboîter les pas. Des précisions avec la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tidna Salama, a été jointe par Blaise Shindani Kambala.
Donc enfin, c'est fait comme tout le monde l'attendait. Donc comme on l'avait dit plus tôt, c'est que le chef de l'État voulait à ce qu'il y ait plusieurs options, pas que pour lui, mais pour tous les autres Congolais. Donc enfin, il y a des doses qui sont là, donc de Moderna, il y a AstraZeneca qui est arrivé de la Grande-Bretagne pour la deuxième dose de tous ceux qui attendaient, hein, ceux qui avaient reçu la première dose. Et dans le cadre de l'initiative COVAX et de l'Union africaine, il y a d'autres vaccins qui sont attendus, notamment Johnson & Johnson et Pfizer. Et voilà, donc il y aura vraiment assez de variété pour toute la population congolaise que nous invitons à se faire vacciner pour ceux qui ont encore des doutes, pour ceux qui attendaient que l'exemple vienne d'en haut. C'est désormais chose en fait.
Oui, mais vous pouvez nous dire, le président a reçu quelle dose?
Bon, je me demande si c'est vraiment ça le plus important, mais pour ceux qui le souhaitent, c'est en tout cas Moderna qui est arrivé. Et comme je l'ai dit encore une fois, dans la semaine qui vient, donc en tout cas d'ici la fin du mois de septembre, il y aura d'autres doses qui vont venir, hein, notamment Johnson & Johnson et Pfizer. Donc on aura vraiment une variété, hein, des vaccins, et les gens auront le choix. Les gens décideront ou choisiront le vaccin qui les convient le mieux.
Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a mis cette clinique à la disposition des membres du gouvernement, de ses collaborateurs ainsi que d'autres personnalités pour se faire vacciner. Au Sud Kivu, la lutte contre la propagation du coronavirus va de plus en plus mieux. La tendance à la contamination est à la baisse depuis la semaine dernière. Une centaine de malades guéris et une dizaine de malades internés dans les structures médicales prises en charge. Le Sud Kivu a environ 4000 personnes déjà vaccinées. C'est ce que nous raconte à Bukavu Emmanuel Elmejua Kabedi.
La province du Sud Kivu connaît en ce moment une évolution positive de la troisième vague de COVID-19. Moins de 10 cas positifs enregistrés au cours de la semaine dernière, plus de 150 personnes guéries, une cinquantaine de malades suivis, dont 42 à domicile. Docteur Claude Baïziré, en charge de la communication à la division provinciale de la santé.
Ça évolue dans les bons, il faut que la population quand même le sache, mais il ne faudrait pas aussi qu'il relâche.
Donc le vaccin est disponible en ce moment pour tout le monde?
Oui, pour tout le monde. C'est quand même bon parce que vous imaginez, on était déjà à 400 par semaine. Et puis on est descendu à 300, à 200. Cette semaine, ce qui vient de se passer, on était seulement à 6 nouveaux cas. Il y a eu 153 guéris à peu près. Les 1000 et à 2794.
Un lot de vaccins AstraZeneca est en cours de validité au Sud Kivu jusqu'au 30 septembre prochain. Près de 4000 personnes ont reçu la première dose, tandis que près de 1500 personnes ont reçu la deuxième dose de vaccin. Depuis mars 2020 à ce jour, le Sud Kivu enregistre un cumul de 2794 cas, dont 137 décès. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, au Nord Kivu, au moins 216 nouveaux cas de violences sexuelles basées sur le genre ont été enregistrés au premier semestre cette année, soit un nombre plus élevé que l'année dernière. C'est ce qu'a rapporté ce week-end à Goma l'unité Escadron Protection de l'Enfant et Prévention contre les violences sexuelles, ce qui pousse la police civile de la MONUSCO et la police nationale congolaise à inviter la population à mettre fin à ces pratiques dont les conséquences sont parfois fatale sur les victimes, les bourreaux et les témoins. Des précisions avec la commissaire supérieure et commandant en second de l'escadron protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles, ville de Goma. Ces propos ont été recueillis par Mathieu Idunga Chamboui.
Les statistiques, il y a un taux élevé. La violence à l'égard des femmes multiplie des conséquences physiques et peut nuire à la santé de la reproduction. Notamment les blessures, des fractures, des lésions, des maladies chroniques, souvent des conséquences mortelles comme le fémicide, la suicide, la mortalité maternelle. Lorsqu'ils commettent leur forfait, ils pensent qu'ils ne seront jamais attrapés. Mais il y a toujours ce qu'on appelle des traces sur la scène de crime et ça nous aide à reconstituer les faits. Une fois condamné au tribunal, il y a des conséquences par rapport à sa famille. Il y a des dommages collatéraux. Et si l'État militaire ou soit un policier condamné avec des circonstances aggravantes, voire même il se fait radier des forces armées et il va perdre son boulot. Et il faut que les gens se mettent en tête que ce n'est pas quelque chose de facile qu'on peut prendre avec légèreté. Il faut assumer et voir les risques avant de commettre de telles atrocités.
Pour rappel, la police nationale congolaise et la police des Nations Unies ont sensibilisé la population la semaine dernière à travers des messages radio. Allons maintenant à Bandunduville, dans la province du Kwilu, où l'association de jeunes responsables a lancé ce week-end une campagne de sensibilisation dénommée « Moi Sitala Malamu » qui signifie « Femme, habille-toi décemment ». Cette campagne de sensibilisation qui est menée dans les instituts supérieurs et autres lieux publics vise notamment à réduire sensiblement les infractions liées aux violences sexuelles. Le responsable de cette organisation citoyenne rappelle que l'article 176 du Code pénal congolais interdit l'outrage aux mœurs. Prosper Gata Matambu s'est confié à Irène Boma.
Dans le souci de battre en retraite la recrudescence des infractions liées aux violences sexuelles, l'ONG AGR a lancé la campagne intitulée « Moi si lata malam ». « Moi si lata malam » où nous voulons que la femme revienne dans le bon sens. Nous ne voulons plus voir la femme exhiber ses parties intimes dehors, se promener presque à moitié nue, pendant que c'est un comportement fustigé par l'article 176. Code pénal congolais livre D qui stipule quiconque aura publiquement outragé le mœurs par des actions qui blessent la pudeur sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 3 ans et d'une amende ou d'une de ses peines seulement. Le message fort à la population, surtout à la femme, c'est de s'habiller décemment, de se comporter au regard de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Que la population ne puisse pas crier au scandale, à la tracasserie policière, non, c'est un comportement qui est déjà réprimandé dans nos lois du pays.
J'apporte un rectificatif et je voulais parler de la campagne de sensibilisation dénommée « Moi si lata malamu » qui signifie « Femme, habille-toi décemment ». Les activités économiques sont restées paralysées ce lundi matin à travers toute la ville de Beni au Nord Kivu. Des maisons de commerce n'ont pas ouvert leurs portes. Cette situation fait suite au mot d'ordre des deux journées ville morte lancées par la coordination urbaine de la société civile pour protester contre la montée de l'insécurité dans cette ville. Le récit d'André Kitenge.
La coordination urbaine de la société civile de Beni avait appelé les habitants de la ville à observer deux journées de ville morte lundi et mardi. Pour son président, Maître Pepe Kavota, ces deux journées seront observées sous méditation afin de prier pour les autorités de l'état de siège afin de restaurer la paix et la sécurité dans la ville de Beni qui fait face ces dernières semaines à des vols à main armée pendant les heures de couvre-feu. Depuis ce matin, la plupart des maisons de commerce sont fermées au centre-ville. Cependant, la circulation reste normale et les banques sont ouvertes. La veille, le maire de la ville s'était opposé à cet appel de la société civile. Tout en appelant les habitants à vaquer librement à leurs occupations, il avait dit regretter cette position de la société civile. Le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé.
C'est inconcevable, c'est inadmissible. On va décréter deux jours de ville morte. Ça va apporter quoi? Ça va changer quoi? Ça va amener la sécurité? Ou plutôt, on est en train d'enfoncer les gens dans l'insécurité. J'ai pensé que la société civile était était là pour soutenir la population. Mais si elle est là pour détruire cette population, que nous sommes en train de tout faire pour protéger, en tout cas, je suis désolé.
Pendant ce temps, les éléments de la police ont été déployés tôt le matin dans certains lieux stratégiques de Beni. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Non loin de là, en Ituri, la carence de produits de première nécessité s'observe dans plusieurs centres commerciaux, dont Komanda, dans la chefferie de Basili, au sud du territoire du Rumu. C'est la conséquence de la suspension du trafic pendant plus d'une semaine sur l'axe Komanda-Luna, qui permet ainsi de ravitailler ces entités en produits manufacturés provenant du Nord Kivu et de l'Ouganda voisin. Les habitants de la zone plaident pour l'augmentation des effectifs militaires dans les zones de combat pour désenclaver ces centres commerciaux malgré la reprise des escortes depuis vendredi dernier sur cette route par la MONUSCO et les FARDC. Nous en parlons avec vous, Ezekiel Mouzalia.
La plupart des transporteurs qui quittent la ville de Bunia en direction de Beni au Nord Kivu voisin sont obligés de passer 2 ou 3 jours, voire une semaine à Komanda en attente de la programmation des convois. La timidité du trafic sur cet axe met à mal les conducteurs des engins ainsi que les usagers qui effectuent le trafic sur cet axe. L'un d'eux exprime son impatience.
Vraiment, et qu'on a tout ça.
En tout cas, nous souffrons. Nous faisons face à une crise économique. Nous vivons du trafic sur cette route. Pas seulement les chauffeurs, même tous les habitants de Bunia. Vous dépensez de l'argent, nous vivons comme des déplacés.
Cette situation est exacerbée par l'augmentation des effectifs des déplacés internes estimés à plus de 30 000 personnes qui ont fui ces attaques dans les chefferies de Walese Vonkutu, Tchabi et Boga, indique la société civile locale. Gili Gotabo.
Ce trafic-là a baissé vraiment l'économie de notre territoire. Beaucoup des affaires sont vraiment mal nourries suite à la hausse des prix des denrées alimentaires.
Signalons que malgré la reprise du trafic vendredi dernier sur ces axes, avec les concours de la MONUSCO et les FARDC, l'armée poursuit toujours des opérations dans cette zone afin de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap plaide pour la prise en compte des besoins des personnes vivant avec handicap. D'après elle, plusieurs étudiants vivant avec handicap abandonnent les études pour plusieurs raisons, dont la stigmatisation et les frais académiques jugés exorbitants pour cette catégorie d'étudiants. Reportage à Lubumbashi de Jean Gandou.
C'est au cours de la troisième journée des assises des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire que la ministre est intervenue. Irène Sambo a fait un plaidoyer en faveur d'une éducation inclusive de tous les étudiants, plus spécialement de ceux vivant avec handicap. Pour elle, ces étudiants ne se sentent pas soutenus tout au long de leur parcours académique. Le cas de ceux qui ont des problèmes de communication et qui doivent suivre les cours dans les mêmes conditions que les autres. Elle propose qu'au sein de chaque institution d'enseignement supérieur et universitaire soit créé un service ou une direction chargée de recevoir les étudiants vivant avec handicap pour qu'ils expliquent leurs difficultés et qu'ils soient orientés dans le but de leur permettre d'étudier aussi dans de bonnes conditions. À ces difficultés s'ajoute aussi la question relative aux frais d'études qu'elle trouve exorbitants pour les personnes vivant avec handicap qui sont dès le départ victimes de la stigmatisation même au sein de leurs familles respectives. Ainsi, elle plaide pour que ces frais académiques leur soient allégés. Irène Sambo.
Au-delà de la formation, mais de l'acceptation. Et ça commence même au niveau de la famille. Beaucoup de parents négligent les études de leurs enfants. Voilà pourquoi je fais encore ce que vous voyez, pour demander à ce qu'il y ait un allègement des paiements des frais.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Un avion de la compagnie pakistanaise PIA a atterri ce lundi matin à l'aéroport de Kaboul, premier vol commercial international depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans. Il s'agit d'un des premiers signes de normalisation économique pour le pays et son principal aéroport international qui avait été assiégé à la fin du mois d'août dernier par des milliers d'Afghans voulant quitter le pays après le retour au pouvoir du gouvernement islamiste. Et puis une patrouille des militaires maliens est tombé dimanche soir dans une embuscade tendue par des terroristes. C'était aux environs de Manidje, Kolongo, à l'ouest de la ville de Bamako. Le bilan provisoire fait état de 5 morts côté forces maliennes et 3 côté terroristes. De plus, 5 véhicules militaires et 3 des assaillants ont été détruits.
L'invité.
Notre invité ce midi, c'est le président de la Confédération des négociants et transporteurs miniers du Grand Kivu. Israël David Kikuni parle de la collaboration entre les trois provinces sur les transits des minerais par voie aérienne après l'accord qui a été conclu entre les gouverneurs du Maniema, du Nord et du Sud Kivu. Il s'entretient avec Mathieu Ilunga Chamboui.
Monsieur Israël David Kikuni, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi on doit utiliser les transports aériens des minerais du Maniema au détriment des voies ferrées et terrestres qui sont dans cette province?
D'abord, je suis président provincial des négociants de la province du Maniema. Je suis président de la Fédération de coopératives minières du Maniema, en sigle FECOMIMA. Aujourd'hui, les trois provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, ont accordé encore être président de cette île, la CONECOMA. Alors, par rapport à votre question, nous sommes là pour éclairer l'opinion. Mais il n'y a pas question au détriment de la voie ferrée et la voie terrestre. Le transport des minerais, ça dépend de la personne. Ce n'est pas exigé à tout le monde. Mais nous, par rapport à l'association routière de notre pays, chez nous, dans le Maniema, la pointe est très enclavée, on n'a pas de route. Alors, on avait sollicité auprès des trois gouverneurs de nous accorder cette libre circulation et la commission des minerais. Et sur base de cela, celui qui veut prendre la voie ferrée, qu'il les prenne. Celui qui veut faire la voie terrestres qui les prennent. Mais nous, on a préféré la voie aérienne qui est très rapide et ça pose pas de problème parce que quand il pleut, il a l'impraticabilité de dépasser nos produits miniers. Et c'est à cause de cela qu'on avait demandé aux autorités le temps que le Congo se donne aujourd'hui pour améliorer l'état de nos routes. Et on a sollicité auprès des autorités. Ce n'est pas au détriment.
À votre niveau, quels sont les avantages de transporter les minerais du Maniema en transit vers d'autres provinces?
Ce n'est pas seulement le Maniema. C'est un aspect qui relie les trois provinces. Même si les minerais décident qui vous peut transiter au Maniema, peut transiter ici au Sud Kivu. Même les minerais du Nord Kivu peuvent transiter au Maniema et au Sud Kivu. C'est la question qui relie les trois provinces. Ce n'est pas le Maniema seul. Et de deux, ce n'est pas un transfert de minerais. Le protocole d'accord signé avec les trois autorités, c'est après avoir payé tous les frais liés à l'exportation. Quand les frais payés à la province d'origine, maintenant, on peut prendre les minerais dans les transports aériens pour transiter au nord et au sud de Kivu. Alors, les avantages, comme chez nous, on n'a pas de route, quand les petits avions font les transports, on prend les produits pharmaceutiques, on prend les vivres qui facilitent la population là-bas, l'avion n'ira pas à vide. On amène les produits alimentaires et au retour, on embarque les minerais. Deuxième avantage aussi au niveau du Maniema, si on avait sollicité cette transaction pour cette circulation pour trois provinces, par rapport aussi au prix des minerais que nous sommes imposés sur le terrain. On nous impose les prix sur le terrain à Pugna aujourd'hui. Un kilo de cassérite, c'est 7 à 8 dollars. Différemment, à Goma et à Bukavu, c'est 15 dollars par kilogramme. Et maintenant, cet écart, les transports terrestres et ferriers est moins coûté. Mais ça nous pose toujours problème par rapport à la durée des transports. Ça prend 2 ou 3 mois et ça réduit les prix. Mais si ça facilite dès l'avion décolle, quelques minutes après, une heure après, l'avion arrive à la destination. Et ça nous permet cette rapidité-là. Et puis, l'exportateur, il a la facilité de pouvoir déplacer les minerais très rapide. Ce n'est pas question de transfert.
Ce que vous appelez branche de la société civile parle en faveur de la population en disant que si les minerais du Maniema sont transportés sur les voies ferrées et terrestres, ça peut donner l'occasion à ce qu'on puisse réaménager et réhabiliter les voies ferrées et les voies routières.
On ne peut pas faire un débat à ce sujet. Mais notre souhait que nous devons montrer à l'opinion, ce n'est pas un transfert de minerais qui pourra se faire. Les minerais du Maniema, on va payer les frais liés à l'exploitation. La première des choses, et par rapport à la voie terrestre et ferrée, ça posait des préjudices énormes dans le Maniema. Les statistiques chaque mois, ça évalué de 300 tonnes à 500 tonnes chaque mois. Mais aujourd'hui, des statistiques et des produits, vous pouvez d'abord se renseigner à la division des mines, vous pouvez se renseigner au CSC-CMAP, ça varie aujourd'hui de 100 tonnes, 120 et 150, difficilement pour arriver à 100 tonnes. Et quand déjà cette statistique est trop bas, c'est le Maniema qui est en train de perdre. Parce que comme il n'y a pas de route, les minerais du Maniema maintenant travaillent dans des provinces voisines par fraude. Et c'est pour cette raison qu'on avait associé d'autres provinces pour aussi de savoir bien canaliser tout statistique des produits miniers du Maniema. C'est ça l'objectif. Parce que le Maniema est en train de perdre. Au lieu d'avoir 400 tonnes chaque mois, nous sommes à moins de 200 tonnes, moins de 150 tonnes. Différence des produits, ça va où? Il y a des mines, les mines qui sont proches des provinces voisines. Quand ils voient la province voisine, il y a la facilité de prendre des minerais, arriver à la destination, ils amènent ça là-bas. Par camion, c'est tellement difficile. Alors, pour éviter cela, on a demandé aux autorités provinciales qu'on nous accepte cette voie aérienne. Ça va permettre aussi le Maniema de bien capitaliser sa quantité et sa production. Maintenant, les deux provinces se soutiennent aussi pour éviter cette fraude minière qui se passe dans notre province.
Je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président de la Confédération des négociants et transporteurs miniers du Grand Kivu. Israël David Kikuni était interviewé par Mathieu Ilunga Chamboui. Et c'est la fin de cette édition d'information à 12h20. Merci à Noël Aluzi Tukabambi qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelekipela Mondo. Vous avez le loisir de retrouver ce journal sur www.radiookapi.net.